Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Carole et Pierre se lèvent. Pierre dit, nous devons partir. Notre travail nous attend. Venez, elle se lève. Ils sortent du salon. Et de l'appartement. Elle a la gorge serrée. Une fois dehors, Pierre lui demande « Vous voulez que je vous mène quelque part ?»« Elle est où quelque part ?»« Elle n'a pas de quelque part. » Elle lui dit « Non, merci. » Il lui dit « Mais si vous voulez, je peux vous mener où vous voulez. Ma femme a sa voiture, alors. » Il ouvre la portière, elle entre dans la voiture, il la met en route. Il lui demande « Vous voulez aller où ?» Elle lui dit « Gare Montparnasse. » Comme ça, elle aurait pu dire n'importe quoi. Il la conduit là-bas. Il lui demande « Vous avez passé une bonne soirée ?» Elle lui dit « Oui. » Il lui dit « Ça vous fera un bon souvenir. » Arrivé à la gare de Montparnasse, il va s'arrêter. Elle sort de voiture, il lui dit « Bonne chance » et il repart. Il avait peur qu'elle traîne près de chez lui. C'est pour ça qu'il a insisté de la raccompagner. Il avait peur du scandale à cause des voisins. À 12h30, il retrouve Carole au restaurant, un restaurant près de la place de l'Étoile.
Vous installez quelque temps parmi nous en Bourgogne.
Il lui demande, et alors ? Elle lui dit, c'était amusant. De voir une autre personne d'une autre classe se débattre d'une façon. Pour essayer de vivre comme nous, le coup du nez, l'on s'amuse plus avec une fille du peuple, en plus du plaisir, on l'humilie sans en avoir l'air. C'est un plaisir étrange. Il l'a ramenée dans son monde après tout ce qu'elle a connu. Il y a de quoi se suicider, le jour et la nuit, il lui dit. Et du point de vue sexuel, pas mal. Tu t'amuses à cause de la gêne d'être dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est bien. C'est du vrai sadisme.
Pensez-vous, papa ? 176.
Il n'est pas formidable.
76 de qui ?
Les jours passent, mais malgré que Carole trouve ou semble trouver du plaisir à ces, disons, rencontres, son amour-propre en prend un coup. Elle se sent pas libre, cela l'énerve. Elle voit le plus souvent Eric, qu'elle aime bien et souhaite en faire sa chose. Ils se voient le jeudi après-midi dans le petit studio. Eric est fier d'aller rejoindre une femme dans une chambre. Il monte les 3 étages en courant.
À sa porte, mais ne lui a pas donné les clés. Les portes transforment le studio en garçonnière. Pour lui. La porte s'ouvre. D'habitude, elle est là depuis 1 heure. Elle en a fait sa demeure de cette pièce. Préparer son arrivée. Le café, le lit et les choses qu'il faut pour se nettoyer. Elle le fait entrer. Il ferme la porte, la prend dans ses bras et lui demande « T'as passé une bonne semaine ?» Il lui répond « Oui, si l'on veut, et toi ?» Elle soupire et lui dit « Oh, moi, tu sais, t'es toujours aussi... horrible. Il me force à faire des choses terribles. Il me bat. Je suis très malheureuse. Si tu savais. » Il lui dit furieux. « Je lui cassais la gueule. » Elle lui dit. « Oh, surtout pas. Il me battrait après. Non, attendons. Ensuite, nous jaserons. Comme il faut. » Il lui dit. «
Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle lui dit, il faut faire les choses sans se presser, en réfléchissant, sans énervement. Mais ne parlons plus de ça. Viens. Elle se dégage et le mène vers le lit. S'allonge. Viens. Il se penche sur elle. Il oublie tout ça. Lui aussi est violent avec elle, mais c'était pas une violence méchante. Une heure plus tard, ils prennent leur café en robe de chambre, assis sur le rebord du lit. Elle lui dit, il faut se dépêcher, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure. Il lui demande avec qui ? Elle lui dit, avec Franblanc, je dois être à l'heure. Il lui dit, le président ? Oui. Le président ? Elle hausse ses épaules et lui dit, il ne l'est pas tant que ça. Il fait la grimace. Elle lui dit, mais tu es jaloux, ma parole. Il lui dit, lui, surtout pas. D'ailleurs, l'on dit qu'il est puceau. Elle lui dit, sûrement pas. Il la regarde bien et lui demande, comment le sais-tu ? Elle lui dit, mais quoi ? Et puis, nous n'avons pas le temps de nous disputer. Dépêchons-nous. Allez, zut, arrête ! Il lui demande furieux, et comment le sais-tu ? Elle lui dit, je ne le sais pas, comme ça. Il lui dit, tu as couché avec lui ? Elle hausse les épaules et lui dit, « Mais non, que tu es bête !» Il l'a giflé. Elle se lève, hausse ses épaules, et d'un bond lui dit, « Nous n'avons pas le temps de faire une scène de jalousie. Et puis je suis libre. Nous ne sommes pas mariés, non ? Si j'ai des comptes à rendre, c'est à mon mari. » Il fait, « Ah, ton mari !» Elle lui fait, « Oui, quoi ?» Il lui dit, « Je croyais que tu ne l'aimais plus. » Et il lui dit, « Que je ne l'aime plus, il est tout de même mon mari. » Elle se dirige vers la salle de bain en lui disant, « Dépêche-toi de finir ton café. » Il lui dit, « T'es bien pressé de me voir partir. » Elle entre dans la salle de bain pour prendre une douche rapide. Elle se dit, décidément, je n'ai pas de chance. Il risque d'être tout aussi encombrant que l'autre. J'ai vraiment pas de chance. Elle sort de la salle de bain. Il n'a pas fini de s'habiller. Elle lui dit, « Dépêche-toi, j'ai à partir, il lui dit. Si tu me donnes la clé comme ça, tu pourras partir comme tu veux. Elle commence à s'habiller. Et lui dit, il n'en est pas du tout question. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est moi qui ai la clé. Il soupire. Il est en chemise. Va à elle. Tend la main. Elle a fini de mettre son tailleur. Il lui dit, donne-moi cette clé. Non. Il la pousse. Donne-moi cette clé. Non. Il l'a giflée. Elle recule. Prend son sac. Et recule vers la porte. Il s'avance vers elle, en tremblant et en tendant la main. Donne-moi. Non. Tends la main. Je veux lui prendre son sac. Mais d'un geste, elle ouvre la porte, le pousse dehors et ferme la porte. Il tape à la porte. Elle prend son pantalon et sa veste avec ses chaussures. Et va les jeter par-dessus la rampe. Mes affaires! Il descend en slip et chaussettes. Les chercher. Elle en profite pour fermer la porte à clé. Puis, elle descend en courant les escaliers. Elle tombe sur lui, quelques marches plus loin, à terre, ramasser ses affaires. Elle le dépasse. Tout d'un coup, elle voit qu'il a attrapé ses jambes. Elle ne peut plus bouger. Elle lui dit, arrête Eric, j'ai un rendez-vous, laisse-moi. Si je rate mon rendez-vous, je t'en voudrai toujours. Laisse-moi ou je crie. Il lui dit, je m'en moque. Du moment que tu ne vas pas à ton rendez-vous. Elle lui dit, c'est un rendez-vous d'affaires très important. Allez, arrête. Il lui dit, je vois ce que c'est tes rendez-vous d'affaires. Elle lui dit, ne fais pas l'enfant, allez. Il la tient toujours. Elle lui dit, si je crois, si je crie, il y aura un scandale. Et le propriétaire ne voudra plus nous louer le studio. Où irons-nous? Allons, fais pas de bêtises. Réfléchis une minute, il lui dit. Bien, il la lâche. Elle court pour descendre les escaliers. Lui reste sur les escaliers. Il lui crie, on se revoit quand? Elle lui dit, jeudi prochain, même heure. Et il entend qu'elle a quitté l'allée, soupire, met ses chaussures, sa veste, il descend à son tour. Sur le palier du deuxième étage, une vieille, en robe noire, maigre, le regard dur, il se dit qu'elle a dû entendre. Et il va vers la sortie de l'immeuble de bonne humeur. L'excitation lui a fait du bien. Des scènes comme celle-là, c'est bon pour l'amour. Ça évite la monotonie. Il regarde et voit qu'elle a disparu. ça retourne au lycée. Pour elle, Carole, ça l'amuse, ces scènes. Et elle ne prend pas au sérieux ce petit amant. Elle pense à la chanson du petit mari que l'on peut mettre dans sa poche. Lui, c'est l'amant. Mais il faut tout de même faire attention. Lui est violent, jaloux et un peu sadique. A aucune morale, la preuve, son frère. En entrant au lycée, il retrouve son frère qui lui demande « Où étais-tu ?» Eric lui dit « Je t'ai manqué, hein ? Ne t'en fais pas, ne fais pas de soucis. Je suis revenu. » Eric lui dit, « Tu m'as pas du tout manqué ?» Je posais une question comme ça. Eric lui dit, « Nous verrons ça ce soir. » Frédéric soupire et lui se dit, « Quand est-ce qu'il va devenir adulte ?» Pendant ce temps, Carole entre dans l'immeuble du siège Franc-Blanc. Elle va à l'accueil. Et dit, « Bonjour, j'ai rendez-vous avec M. Franc-Blanc Gilbert à 15h30. » L'hôtesse tape sur son ordinateur. Elle lui dit, « Oui, donnez-moi votre carte. » Elle donne sa carte et la met sur l'écran. Elle lui demande, « Votre pouce, s'il vous plaît. » Carole met son pouce sur l'écran. L'hôtesse lui tend sa carte et dit, « C'est bon. » L'hôtesse fait signe à une autre hôtesse, une grande blonde, en tailleur d'hôtesse rouge. Celle qui est à l'accueil lui dit, « Amenez la direction générale, mademoiselle Bosch. » L'autre dit à Carole, « Veuillez me suivre, madame. » Et Carole la suit. Elle l'amène à l'ascenseur. Jusqu'au dernier étage. Là, sortent de l'ascenseur. Une autre hôtesse les accueille et leur dit, « Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Et elle les mène au secrétariat de Gilbert. Frappe à une porte. Entrez. C'est un bureau où se trouve une jeune femme blonde avec un tailleur rouge aussi, assise devant un ordinateur. L'hôtesse dit, c'est mademoiselle Bosch. L'autre regarde sur son écran et dit, bien. Elle prend son téléphone et fait un numéro. Monsieur le Président, votre rendez-vous de 15h30 est arrivé. Madame Bosch. Bien, Monsieur le Président. Elle dit à l'hôtesse, vous pouvez amener Madame au bureau du Président. Veuillez me suivre, Madame. Et Carole la suit. Dans ce bureau du secrétariat et vont vers la porte du bureau du président. L'hôtesse appuie sur un bouton. Un voyageur vert s'allume. L'hôtesse a fait entrer. En la voyant entrer, Gilbert se soulève et lui dit, « Voulez-vous vous approcher, madame ?
Venez vous asseoir, monsieur le président. Et elle va s'asseoir devant le bureau du président dans un fauteuil. Il lui dit, je vous écoute. Elle lui dit, je suis venu pour savoir où en est notre affaire. Il lui dit, nous avons guère avancé. Notre groupe s'occupe d'abord de projets urgents, tels finir la réhabilitation de Paris, Lyon, New York. Ce n'est pas une mince affaire. Avant tout ça, notre groupe s'occupe de ceci. Et c'est pas facile du tout, car il y a dans ces villes des groupes occultes, anars, qui sont dans ces villes. Il y a constamment de manifestations, des bagarres, du sabotage. La jeunesse refuse le modernisme et préfère la crasse, la nullité. Elle est très nihiliste, et en France, encore plus qu'ailleurs. Ce sont des étudiants qui ne savent pas quoi faire. Ils sont contre tout, et leur adolescence dure, dure. C'est très difficile de faire avancer un projet comme celui-là. Nous avons notre groupe a de gros problèmes. On ne peut pas finir nos chantiers et en commencer d'autres, car la démolition devient difficile. On ne veut pas quitter son logement, même s'il est insalubre. Elle lui dit, oui, bien sûr, vous avez beaucoup de difficultés, mais vos difficultés sont surtout dans le bâtiment. Il lui dit, bien sûr, mais tout va avec, même la recherche médicale. Elle lui dit, oui, mais et mon projet? Il lui dit, ça fait partie du tout, la télévision, et où les gens sont logés. Et là, les gens refusent de déménager et d'aller dans les zones. Je parle pour les pauvres, bien entendu. Parce que les autres, ceux qui ont les moyens, retourneront dans leur ville une fois qu'elles seront rénovées. Elle lui dit, oui, pour la diffusion, mais pour la recherche. Il lui dit, la recherche peut être financée que s'il y a une demande, un consommateur. Et pour le moment, personne ne demande la télévision. Haute définition. Elle lui dit, personne ne la demande parce que personne ne la voit. Il lui dit, oui, mais personne ne la verra si personne ne la veut. Elle se dit, il se moque de moi. Elle lui demande, vous voulez plus participer à ce projet alors? Il lui dit, oui, bien sûr, et d'ailleurs, il est moitié avec vous et moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi et moi sans vous. Sans vous. Elle se dit, il a voulu prendre le projet pour le mettre dans ses tiroirs et éviter la concurrence. Mais il ne veut pas le faire. Il a peur que je le présente à un concurrent. C'est pour cela qu'il l'a pris. Elle lui dit, que faisons-nous? Il lui dit, attendons un moment plus propice. Elle se dit, avec sa gueule d'ange, il est dangereux en affaire, ce petit salaud. Elle lui dit, bien, puisque c'est au point mort, il lui dit, pas vraiment, comment? Oui, parce que vous êtes là. Et alors?
Eh bien, si c'était au point mort, je ne vous aurais pas reçu. Elle demande, est-ce à dire? Il lui dit, qu'il faut me faire confiance et me laisser faire mes affaires en cours. Des rénovations de grandes villes, ça donne beaucoup de travail et c'est très délicat, plus que de faire des recherches sur la télévision de demain. Elle lui dit, je comprends, donc je peux vous faire confiance. Oui, bien sûr. Elle se lève et lui aussi. Je vous laisse et merci de m'avoir reçu. Il se lève, va vers elle et lui dit, faut toujours me faire confiance. Et il la raccompagne jusqu'à la porte. Elle se dit, il est décidément très beau garçon, mais un peu jeune. Très beau, très joli visage d'ange. Il ouvre la porte. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et elle le quitte. Il a fermé la porte. Va s'asseoir à son bureau. Prend son téléphone. Fait le numéro direct de Judith. Allô? Judith, c'est moi, Gilbert. Elle vient de partir et j'ai dit ce que vous m'aviez dit de lui dire. Comme cela, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Ou de ne pas faire ce que nous voulons. Voilà. Carole, en sortant du siège de Franblanc, se dit qu'il ne faut plus compter sur le contrat de coopération avec Franblanc. Et si Franblanc refuse son projet, personne ne le voudra, parce qu'on dira que si le groupe le plus fort du monde le refuse, c'est qu'il n'est pas bon. Elle se dit, si je n'ai plus ce projet, je suis perdue, encore plus à la merci de ma belle famille, de mon mari. Déjà, ils me tiennent à cause de cette histoire idiote. Si en plus je n'ai plus de fortune, ils m'auront en entier et peut-être feront-ils comme pour Antoinette. Non, je ne veux pas vivre enfermé, un prisonnier. Plutôt, chez eux, je dois me libérer de mon mari. Soit libéré de lui, je ne risque plus rien. Mais comment me libérer de lui ? Elle a un taxi pour aller à son bureau. Le taxi va s'arrêter. Entre dedans, le taxi démarre. Thank you. Elle n'a pas réussi. Elle n'y est pas arrivée. Si son contrat avec les francs blancs ne se fait pas, elle en a d'autres. Mais le contrat, la mettait au-dessus des autres. Avec cette affaire, elle aurait pu imposer ses volontés à sa belle famille. Ils auraient été à ses pieds. La peur de perdre l'une des femmes les plus riches du monde. Et puis, lorsqu'ils vont savoir que Franblanc n'a pas voulu d'elle, ils vont la prendre. Ils vont lui prendre de haut, parce que Franblanc, ils ont voulu, pas pour grand-chose, mais ils ont voulu, tandis qu'elle, non. Se demande pourquoi les francs blancs n'ont pas voulu. C'est Judith qui a fait une enquête et qui, d'après l'enquête, s'est aperçue que cette femme et cette famille n'étaient pas bien. Trop de choses troubles, tous ces gens bizarres qui vont chez elle, ces bagarres, ces sorties la nuit, la femme de pierre, pas très net tout ça, surtout qu'une ancienne bonne parler de relations étranges entre les frères, les enfants de Pierre. Après avoir lu le rapport, Judith se dit « Non, il ne faut pas que le président ait des relations avec ces gens-là. » Elle a demandé rendez-vous avec lui et lui a expliqué pourquoi il ne fallait pas avoir de rapport avec eux. Il lui a dit, mais et le contrat? Et nous avons acheté le brevet. Elle lui a dit, aucune importance, vous le mettez dans un tiroir pour que nos concurrents ne le prennent pas, et vous dites à cette personne que vous êtes trop débordé pour son dossier, pour se lancer dans cette affaire. Plus tard, bien plus tard. Comme ça, elle ne peut pas aller chez nos concurrents et nous la laissons tomber en douceur. Gibet lui dit, bien, je fais comme vous me le demandez. Et c'est ce qu'il a fait. En prenant des gants. Judith n'aime pas Carole. Parce que peut-être sont-elles un peu... se ressemblent-elles toutes les deux. Elle aussi est prête à tout pour réussir. Elle aussi aime les jeunes hommes. Mais Judith n'est pas vicieuse. Ce qu'elle fait, c'est pour le bien de tous. Et puis, elle n'est pas prisonnière de ses plaisirs. Elle n'est pas obsédée. Elle a la tête sur les épaules. L'autre accepte tout pour aboutir à ses plaisirs. Mais elles ont sont toutes les deux jeunes, belles et dangereuses, et se ressemblent physiquement. Pierre boit de plus en plus. Malheureusement pour les autres. Mais il tient le coup. Ça ne se voit pas. Il continue à amener chez lui des filles. Et lorsqu'il est seul, avec Carole, c'est elle qui l'aide à s'assouvir ses vices. Il la bat de plus en plus. Par haine, vengeance, ce qu'elle lui a fait faire, et aussi par plaisir. Carole en a assez de cette vie. Elle continue à voir Eric. Celui-là promet de se venger de son mari. Et elle, ça lui permet, en le voyant, de se venger de son mari. Eric, qui croit que pour être un homme, il faut jouer les machos, alors il est violent avec elle. Elle, elle subit en se disant qu'elle en a besoin. Et puis, sa violence n'est pas la même que celle de son mari. Il est plus innocent et ne recherche plus de plaisir.
C'est ça que tu veux, salope. Tu veux voir comment c'est, hein? Salope! C'est ça que tu veux, hein? C'est ça que tu veux.
Toujours pas de nouvelles de Franblanc. Heureusement qu'elle a d'autres contrats, mais se dit que sûrement qu'un conseil d'administration la belle famille va apprendre que ça n'a pas marché, qu'ils ne l'ont pas voulu. Ils vont la regarder de haut. Jusqu'à présent, il la respectait à cause parce qu'il pensait que c'était une femme d'affaires exceptionnelle. Mais maintenant, elle se dit qu'elle va être à leur merci. Un après-midi, qu'elle est avec Eric dans le studio. Une fois la porte fermée, il fait le geste de la prendre dans ses bras et se dégage. Non ! Il lui demande pourquoi ? Et lui dit : Je ne peux pas. Je suis malheureuse si tu savais. Et elle se met à pleurer. Il lui demande, qu'as-tu? Elle lui dit, je suis si malheureuse si tu savais. Il lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, tu ne peux pas comprendre. Et elle pleure, la prend à l'épaule et la mène s'asseoir sur le lit. Puis la fait allonger. Lui s'assoit sur le rebord du lit, près d'elle. Il lui dit, dis-moi tout. » Elle lui dit, « Tu es tellement jeune, pas tant que ça. Et puis l'âge n'a pas d'importance pour les personnes qui s'aiment. » Elle fait, « Je sais. » Il lui fait, « Alors, dis-moi tout. » Elle lui dit, « Je suis malheureuse à cause de ton père. » Le salaud! Elle fait. Je ne devrais pas le dire. Tu es son fils. Il lui dit. Mon père, je ne l'aime pas. Et lui ne m'aime pas. Elle lui fait. C'est pas bien. Il lui dit. Tu es trop bonne pour ce salaud. Allez, dis-moi tout. Elle lui dit. Oh! Si tu savais, la vie d'un couple a bien des secrets. Et si on savait tout, on en apprendrait bien des choses. La vie privée cache bien des drames, des peines, des secrets. Il lui dit, je le sais, j'ai vu avec ma mère. Elle lui fait, mon pauvre petit, ta mère a dû bien souffrir. Il lui fait, et toi? Elle lui dit, oh, moi, je suis sa chose. Il me traite comme une moins que rien. Si tu savais, il lui demande, il te bat? Elle lui dit, s'il n'y avait que ça, que te fait-il? Elle lui dit, les pires humiliations. Oh! Et puis, je peux tout te dire. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.